Bienvenue à l'épisode 8 du podcast de Marisot la minimaliste. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'une pièce en particulier qui est la cuisine. La cuisine, en fait, est une pièce tellement centrale de notre maison et depuis les anciens temps, elle a été vraiment un point tournant aussi de la vie de société. Donc, c'est ça que je veux aborder aujourd'hui et de voir jusqu'à où on est rendu par rapport à nos cuisines dans notre époque d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles représentent maintenant.
C'est le chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisot est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisot vont rendre ta vie plus facile. Marisot, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste.
La cuisine, c'est vraiment une pièce particulière et très importante de notre maison, de notre logement. C'est aussi la pièce qui a le plus évolué au cours du temps, au cours de la vie. À la base, la première cuisine qui a vraiment existé, c'était dans la préhistoire. Et en fait, la vraie première cuisine, c'était quand le feu, la découverte du feu est apparue. Parce que là, les gens se sont regroupés et ont découvert que les aliments, on pouvait les cuire, les cuisiner. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la première, dans le fond, en fait, rassemblement, parce que le feu était vraiment quelque chose de rassembleur aussi. Les gens se rassemblaient, étaient autour du feu, partageaient un moment ensemble, partageaient le repas ensemble. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose aussi au niveau de la relation. Là, en préhistoire, on sait que bon, l'humain n'était encore pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui, mais ça a sans doute fait ce que, justement, on est rendu où on est rendu aujourd'hui parce que ça a permis de développer des liens, de développer ce sentiment aussi d'appartenance, de groupe, de rassemblement. Donc ça, c'est vraiment le départ où le feu a créé, dans le fond, la première cuisine. La cuisine, après ça, elle s'est adaptée, elle a évolué vraiment au cours des époques et est devenue vraiment très différente, en fait, jusqu'à l'époque qu'on a aujourd'hui. Si on pense à ça, elle a été maintenant intégrée directement dans nos logements, elle fait partie prenante de notre logement, mais à l'époque, elle était vraiment toujours extérieure. Si on pense aux Égyptiens, qui eux autres aussi ont vraiment développer l'art culinaire, en fait, qu'on comprit qu'ils pouvaient associer des épices, associer des choses ensemble et qui ont vraiment beaucoup cuisiné, qui ont même aussi découvert le pain, qui ont créé le pain. Donc là, les repas sont devenus déjà beaucoup plus élaborés. Mais les cuisines à cette époque-là étaient aussi extérieures, étaient souvent communautaires, donc faisaient partie de la vie communautaire, mais on n'en avait pas dans chacun dans nos maisons. C'était vraiment à l'extérieur. Donc on a de la misère en fait à concevoir ça maintenant parce que notre cuisine, c'est vraiment partie prenante de ce qu'on vit à tous les jours, puis ça, c'est chez nous. On a du mal à imaginer qu'avant, on allait peut-être à un endroit public pour cuisiner. Pareil après avec l'époque des Romains. Les Romains, eux autres, en plus, ont apporté d'autres affaires qui ont donné des goûts différents, comme le miel, la friture et bien sûr le vin. C'est les Romains qui ont découvert le vin ou conçu le vin. Donc, ça a apporté toute une autre dimension au repas également. Les Romains, eux autres, ont beaucoup organisé la cuisine. Donc, on fait des cuisines beaucoup plus structurées et qui étaient également extérieures et communautaires, qui faisaient vraiment le centre de la ville où les gens aussi pouvaient aller utiliser, en fait, les facilités pour pouvoir cuisiner leur repas. Donc, vous voyez, vraiment, c'est drôle comme ça a vraiment évolué. Mais la vraie première cuisine, vraiment, qui ressemble plus à celle que nous, on connaît, c'était au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand les riches ont pu, en fait, avoir dans les châteaux, dans les maisons bourgeoises, avoir vraiment une cuisine dédiée. Donc, la cuisine, elle était quand même dans une pièce qui était souvent à l'écart des autres pièces ou au sous-sol ou même dans une pièce ou une maison, dans le fond, annexe. Mais elle faisait partie intégrante quand même de la maisonnée. Donc, c'était plus quelque chose de public. Elle était vraiment rendue privée pour ces personnes-là. Elle était à l'écart encore à l'époque parce qu'on avait peur des incendies. Donc oui, vu qu'on cuisinait avec le feu encore et toujours, eh bien, on les mettait à l'écart pour éviter d'avoir des problèmes d'incendie et de perdre la maisonnée au complet. Mais là, c'est la première fois qu'on a vraiment une cuisine qui est privée et qui appartient vraiment seulement au logement ou au château ou à la maison bourgeoise. Donc c'est intéressant de voir comment elle a évolué, comment elle s'est approchée en fait de la vie plus privée. Donc ça, c'est vraiment les débuts, en fait, les balbutiements de la cuisine. Ensuite, la cuisine telle qu'on la connaît aujourd'hui, bien, est apparue plus au niveau de la révolution industrielle, donc à la fin du 19e siècle. Quand on a eu enfin l'eau courante, le gaz à la maison, donc on pouvait vraiment, en fait, aussi avoir les facilités qui étaient directement dans nos maisons, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est là qu'on a commencé à avoir les premières vraies cuisines. Et la toute première, en fait, cuisine telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, elle a été créée en 1926. Et elle s'appelle la cuisine de Francfort. Elle a été faite par une designer autrichienne. Et le but, en fait, c'était vraiment de créer des logements pour pouvoir loger plus de monde et de faire des logements qui étaient petits. Donc, on a vraiment créé des unités de cuisine dans chacune de ces logements, mais qui étaient tout petits et qui étaient comme ce qu'on connaît maintenant un peu avec notre cuisine, avec un poêle, avec un évier et un frigidaire ou de quoi pour garder les aliments à garde-manger. Donc ça, c'est vraiment, vraiment la vraie première cuisine en tant que telle, donc à la fin du 19e siècle, et que c'est la première cuisine aussi où on voulait améliorer les tâches ménagères, donc faciliter la conception des repas. Ensuite, dans les années 50, c'est là, 50-60, qu'on voit aussi l'apparition beaucoup plus de tous les gadgets de cuisine. On se souvient de ces belles pubs avec ces belles affiches, avec les femmes qui sont capables, mais qui ont aussi les beaux électros, les beaux petits tabliers, qui sont là pour s'occuper de leur conjoint, de leur famille. Là aussi, il y a cette notion très familiale, en fait, aussi du repas, où on prenait le temps de s'asseoir, d'être autour d'une table et de manger, de parler de notre journée. De pouvoir vraiment avoir ce moment ensemble et où on prenait le temps de préparer les repas. Donc oui, les gadgets avaient une raison d'être parce que le but, c'était quand même de faciliter les choses pour la femme qui vivait à la maison. On s'entend, à l'époque encore, les femmes étaient à la maison, c'était des femmes au foyer. Et ben, les maris étaient bien contents de leur offrir des petits électros et des choses qui allaient les aider à faire les repas plus facilement. Donc c'est ça, c'est là où on a eu cette... C'est en fait engouement pour les électros qu'on en a eu de plus en plus de nos cuisines et qu'ils ont évolué à l'époque. On appelle ça des petits électros, mais à l'époque, ils étaient quand même assez massifs. Dans notre époque actuelle, ils sont de plus en plus petits, mais encore, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont encore gros et qu'on a dans toutes nos armoires. Donc là, pour en arriver à qu'est-ce qui en est aujourd'hui? Pourquoi je vous ai parlé de cette évolution un peu de la cuisine? Parce que je trouve qu'actuellement, dans nos cuisines, ce qui arrive, c'est qu'on est dans une période où on a les plus grandes cuisines qui existent. On a des cuisines, des fois, qui, si on regarde la superficie et le nombre d'armoires de rangement et le nombre de superficies de comptoirs, c'est hallucinant, là. C'est des cuisines qui sont énormes qu'à l'époque, dans le fond, ça prendrait comme tout le rez-de-chaussée, mettons, d'une maison qu'on n'aurait jamais imaginé avoir tout cet espace-là juste pour la cuisine. Mais par contre, ce que je trouve très paradoxal, c'est que justement, dans cette vie-là où on a les plus grandes cuisines, les cuisines les plus équipées au monde, avec toutes les électros, avec toutes les gadgets, eh bien, c'est en même temps les cuisines qu'on utilise le moins. On est dans une époque où on a perdu ce goût de faire des repas. On achète des repas préparés, on achète des repas congelés. On ne cuisine plus en tant que tel nos repas. Je le vois, il y a plein de personnes justement qui m'en parlent, qui disent « Ah oui, j'ai tout ça dans ma cuisine. » On voit toutes les gadgets, on voit les bols, les planches à découper, les couteaux, les spatules, tout qui déborde. Mais finalement, la personne dit « Ah, mais j'ai jamais le temps de cuisiner » ou « J'aime pas ça cuisiner ». Donc là, ça nous ramène de nouveau ce que notre société nous apporte. Nous, on est rendu dans une société qui va tellement vite qu'on ne prend même plus le temps de s'asseoir ensemble autour d'un repas. Je trouve ça assez fou de se dire que justement, même dans les familles, souvent, on ne mange même plus assis à la table tous ensemble. Ça se retrouve souvent qu'un plateau, on est devant la TV ou on mange des fois ensemble, mais hyper vite, en 15 minutes, puis chacun repart dans ses activités, on se parle à peine. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ait perdu, en fait, cette habitude ou cette tradition de s'asseoir ensemble pour manger, de prendre un temps d'arrêt, de discuter chacun de « Hey, comment ça va? Comment a été ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé? » Donc, du moins, je comprends que les autres repas de la journée, des fois le matin et le midi, on est plus sur le go, mais le souper, le repas du soir, je trouve que ce serait tellement le fun de pouvoir réintroduire qu'on prend le temps de s'asseoir ensemble, puis de souper, puis de se parler, puis de s'arrêter un petit peu, d'arrêter cette course folle qu'on vit déjà à tous les jours. Et c'est ça aussi le mode de vie minimaliste, c'est justement, c'est reprendre le temps, c'est s'arrêter, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le slow living. Donc c'est justement de reprendre le temps de ces petits moments qui sont précieux. Et pour la cuisine, eh bien, justement, les gadgets, tout ce qu'on a là, en ce moment, quand je vois des cuisines qui sont tellement full équipées, suréquipées, quasiment comme une cuisine industrielle ou une cuisine de restaurant, et que finalement, on ne fait quasiment pas de repas, eh bien, c'est ce que j'appelle un peu le fantasme du KitchenAid, que j'ai moi-même vécu. Parce qu'à un moment donné, j'ai été dans ma vie avec justement quelqu'un qui avait des enfants, puis tout. Puis oui, les repas étaient pour moi quelque chose de très important. Nous, on cuisinait tous nos repas, donc il n'y avait aucun plat pré-préparé. J'avoue, on avait peut-être une ou deux pizzas congelées dans le congélateur pour dépanner de temps en temps. Mais sinon, c'était vraiment, on faisait tous nos repas, puis c'était important. Et on avait inclus aussi les enfants dans ça qui avaient appris à faire des repas eux-mêmes quand ils étaient un peu plus grands. Et du coup, ils nous aidaient beaucoup dans la routine familiale également. Et le fantasme du KitchenAid, pourquoi je vais vous en parler? C'est parce qu'on a cette impression, quand on s'achète des gadgets, qu'on va, parce qu'on a l'objet, être une meilleure personne. Donc moi, le KitchenAid, je rêvais à cette époque-là d'avoir le gros KitchenAid là, mélangeur pour faire de la pâtisserie et tout ça. Je me disais, ah, il va être tellement beau sur le comptoir. Et il y avait une partie de moi qui me disait que le fait d'avoir le KitchenAid, ça allait vraiment dire que j'étais une bonne belle-mère, que j'étais une bonne personne, que je faisais bien ça, que je m'occupais bien, que je faisais des bons repas. Donc c'était vraiment associé ça à qui j'étais. Et je me suis rendu compte qu'au bout du compte, quand je rêvais à ce KitchenAid-là, que je ne me suis jamais acheté d'ailleurs parce que je trouvais toujours que le prix était quand même exorbitant, puis je me disais « ouais, ça vaut-tu vraiment la peine? » Mais que finalement, au bout du compte, je me suis dit « mais je l'utiliserais pourquoi? » Parce que quand même, principalement, c'est pour faire de la pâtisserie, puis moi, j'aime pas ça, faire de la pâtisserie. Donc là, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens et que souvent, c'est ça qu'on vit dans nos vies et je trouve qu'on le vit très particulièrement dans la cuisine parce que c'est une des pièces où on a le plus de gadgets, on a le plus d'électroménagers et qu'on nous prône que ça va nous faciliter les choses puis que ça va nous permettre de faire des repas extraordinaires. La même chose avec les livres de recettes, à plus finir, qu'on a des bibliothèques pleines de livres de recettes mais qu'on ne fait jamais. Cette espèce de fantasme d'être une meilleure personne, de faire des choses, oh mon Dieu, grandioses, alors que le but, c'est simplement de s'asseoir ensemble autour d'un bon repas. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas plus à éliminer toutes ces électros, à se dire, est-ce qu'on peut revenir à des recettes simples, à des repas simples? Parce que le but, c'est oui, de bien se nourrir, mais ce n'est pas non plus de toujours rentrer dans la complexité. Quand je vois des recettes que la liste d'épicerie est longue de même puis qu'il faut des choses tellement compliquées ou qui ne sont pas faciles à obtenir et qu'on n'utilisera dans aucune autre recette parce que c'est tellement spécifique, bien là, on se met énormément de pression de nouveau, énormément de complexité à tout ça. Et c'est ça qui fait qu'on se décourage aussi, qu'on n'a plus le goût de faire des repas. Parce qu'on dit « Ah oui, on pourrait faire tel souper. Ah ouais, mais c'est pas ça prend 2 heures de préparation, mais là, on n'aura pas le temps. » Donc, c'est d'essayer de revenir à la simplicité à ce niveau-là aussi et de revenir un peu à ce que faisaient nos gens du Moyen-Âge, de simplement s'asseoir autour du feu, de s'asseoir ensemble, de se rassembler. Pour moi, la cuisine, ça devrait être ça. Et d'ailleurs, au Québec, c'est drôle parce que moi qui est européenne, la cuisine n'est pas vraiment l'endroit rassembleur parce qu'on n'invite pas nos invités à aller dans la cuisine. La cuisine, c'est l'endroit où on fait nos repas, mais les gens les reçoivent dans la salle à dîner. Alors qu'au Québec, la cuisine, c'est vraiment le centre. Quand on reçoit les gens, ils sont toujours avec nous dans la cuisine, ils sont assis au comptoir, ils jasent avec nous. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on réintroduise, que vraiment ce moment de rassemblement, c'est ça qui devrait être important dans votre cuisine. C'est pas le KitchenAid sur le comptoir, puis c'est pas non plus toutes les autres gadgets qui sont supposément vous aider, là pour vous aider à faciliter les choses, mais qui en fait souvent vous empêchent de faire des bons petits plats. Donc, c'est ça que je veux que vous essayiez de penser, de revenir à cette réflexion-là et de vous dire, c'est quand la dernière fois que vous êtes vraiment assis avec vos amis ou avec votre famille autour d'une table puis que vous avez vraiment pris le temps juste de jaser, de vous rassembler puis que ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était pas si important puis que c'était juste le fait de voir votre monde qui était important. Donc, c'est sur cette réflexion que je vais vous laisser. J'espère que votre prochain repas va être le fun puis que vous allez avoir du monde avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast de Marisol la minimaliste.
C'est le chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisol est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisol vont rendre ta vie plus facile. Marisol, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste. Ouh, 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 Marisol minimaliste.